Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi le dollar canadien ne vaut-il pas cher? Un texte de Karim Benessaye, paru le 30 novembre 2024, dans la presse. Bernard Martel, un lecteur, pose cette question. Tous ceux qui voyagent un peu à l'extérieur savent à quel point notre devise ne vaut pas cher lorsqu'il s'agit d'acheter des euros ou des dollars américains. On se sent vraiment pauvre lorsqu'on voyage. Et pourtant, le Canada est extrêmement riche en matières premières et nous exportons allègrement ses richesses. Alors, comment expliquer cette pauvre devise? On entend souvent que le niveau de productivité des entreprises et travailleurs canadiens est faible. Mais est-ce anémique à ce point? La réponse courte, qui n'explique pas tout, c'est que le cours du dollar canadien reflète l'offre et la demande. En termes plus précis, peut-on lire sur le site de la Banque du Canada, la valeur de notre monnaie monte et baisse selon la quantité de dollars canadiens que les participants au marché d'échange cherchent à acheter et à vendre. Voilà pourquoi on parle de monnaie flottante. Maintenant, pourquoi le dollar canadien est-il moins recherché que l'euro ou le dollar américain? Alain Paquet, professeur au département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, apporte d'entrée de jeu une première nuance. Il faut faire attention. Parce qu'il y a un risque de confusion, il est tout à fait normal que ce ne soit pas du un pour un. La valeur d'une devise par rapport à une autre, c'est une valeur relative. Une pomme n'égale pas un ananas. Les économistes sont unanimes. Un des facteurs importants qui détermine la demande pour une devise, ce sont les taux d'intérêt. En théorie, un pays offrant des taux d'intérêt plus élevés verra sa devise s'apprécier. Depuis 2023, on voit une belle chute du dollar canadien et c'est d'abord et avant tout en raison de la politique monétaire, estime Mario Cecciariccia, professeur d'économie à l'Université d'Ottawa. Le taux directeur de la Banque du Canada est établi depuis octobre à 3,75% contre une fourchette comprise entre 4,50 et 4,75% pour la Fed américaine. L'économie canadienne ne va pas aussi bien que celle des États-Unis, notamment en ce qui concerne le taux de chômage, précise M. Cecciariccia. Pétrodollar et incertitude. Ce lien entre taux d'intérêt et valeur de la devise n'est toutefois pas automatique. C'est une des réponses, ce n'est pas la seule, ajoute l'économiste. La Banque du Canada résume plutôt bien la situation. La demande de dollars canadiens dépend surtout de la demande visant nos biens et services. Plus les gens veulent acheter ce que nous vendons, plus notre dollar prend de la valeur. Importants producteurs et exportateurs de pétrole, de minéraux et de bois, le Canada voit son dollar ballotté au gré du cours des matières premières. Dans le cas du pétrole, les turbulences sont d'autant plus grandes que notre principal client, les États-Unis, est aujourd'hui autosuffisant à ce chapitre. L'autre élément qui profite généralement aux États-Unis, c'est l'incertitude. Le dollar américain étant une valeur refuge. Là, clairement, avec ce qui est arrivé début novembre 2024, l'incertitude vient d'augmenter, souligne Alain Paquet. Le professeur Mario Cecciariccia y ajoute un effet pervers de l'imposition de tarifs de 25% sur tous les produits canadiens et mexicains entrant aux États-Unis, une menace de Donald Trump. Il y aura plus d'inflation aux États-Unis à cause de ces tarifs, donc la Fed baissera peut-être moins ses taux d'intérêt. Taux révélateur. Pour revenir à la question de M. Martel, À quel point la faiblesse du dollar canadien reflète-t-elle la faiblesse de l'économie ou le niveau de productivité des entreprises et des travailleurs? La réponse est loin d'être simple. Alain Paquet a récemment calculé la productivité horaire au Canada et dans la zone euro. Elle s'établissait à 75,4% et 80,8% de la productivité horaire aux États-Unis. La différence entre le Canada et l'Europe est minime et ne semble pas justifier le fait que l'euro vaille 1,48 fois le dollar canadien. L'écart entre le Canada et les États-Unis est toutefois consistant et devrait amener les décideurs à investir davantage dans l'innovation pour améliorer la productivité, estime-t-il. Trop souvent, les entreprises et les gouvernements ont été amenés à porter une attention trop focalisée sur la valeur du taux de change elle-même plutôt que sur les fondamentaux qui donnent ce taux de change. Si on travaille sur les fondamentaux, la devise va prendre la valeur, éventuellement, qui reflète la nature des conditions économiques. C'était « Pourquoi le dollar canadien ne vaut-il pas cher ?» un texte de Karim Benessaye, paru le 30 novembre 2024 dans La Presse.
L'allaitement gagne en popularité, mais n'atteint pas les cibles de Québec. Un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 21 novembre 2024 dans La Presse. L'allaitement, qui offre des avantages tant pour le bébé que pour la mère, gagne en popularité dans la province. Mais pas assez pour atteindre les cibles du ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS, révèle une nouvelle étude. Allaitement insuffisant. L'allaitement progresse dans la province. 29 % des bébés ont été allaités exclusivement pendant leurs 4 premiers mois en 2020-2021, contre seulement 6 % pour ceux nés en 1997-1998, révèle une nouvelle étude de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ. Toutefois, la moitié des bébés seulement étaient exclusivement allaités au lait maternel et à leur sortie de l'hôpital. C'est un résultat en deçà de la cible de 75 % fixée par le M3S dans le cadre de l'initiative des Amis des bébés qui recommande un allaitement exclusif durant les 6 premiers mois de vie. L'allaitement, grâce au lait maternel, protège le bébé des maladies courantes, favorise le lien d'attachement et diminue les risques du cancer du sein et de l'ovaire chez la mère, note le ministère sur son site Internet. Moins d'aliments solides. La proportion de bébés ayant consommé différents aliments avant l'âge de 4 mois a significativement diminué au fil des décennies, souligne la coordonnatrice du contenu et des publications à la Direction des études longitudinales de l'ISQ, Amélie Lavoie. En effet, 58 % des bébés nés en 1997-1998, avaient reçu des céréales avant 4 mois, contre seulement 6 % pour ceux nés en 2020-2021. Il est généralement recommandé d'introduire les aliments complémentaires seulement vers l'âge de 6 mois, lorsque les bébés ont besoin de plus d'énergie et de nutriments pour leur développement et sont physiquement prêts à consommer autre chose que du lait. La moitié des bébés font leur nuit. L'étude a également exploré le sommeil et la santé des bébés. Vers l'âge de 5 mois, 3 bébés sur 4 dormaient entre 12 et 16 heures par jour, conformément aux recommandations de la Société canadienne de pédiatrie. Près de la moitié des bébés de cet âge font d'ailleurs leur nuit, donc dorment au moins 6 heures consécutives. Un sommeil de qualité est essentiel, car il soutient le développement des fonctions mentales des enfants, notamment la mémoire, le langage et les émotions, et contribue à leur apprentissage et à leur croissance globale, note l'étude. Des inégalités de santé dès la naissance. La majorité des bébés participant à l'étude sont jugés en excellente ou en très bonne santé par leurs parents. Cependant, 7% sont perçus comme étant en santé moyenne, passable ou mauvaise, une proportion plus élevée chez les bébés vivant dans une famille monoparentale, dans un foyer où les parents sont nés à l'extérieur du Canada ou dans un ménage à faible revenu. Ces disparités s'expliquent en partie par les conditions de vie des familles telles que le logement, la sécurité alimentaire et les habitudes de vie qui peuvent avoir des effets sur la santé des enfants. Des dépistages auditifs insuffisants. Environ 6 bébés sur 10 ont passé un test de dépistage auditif entre leur naissance et le moment de l'enquête. Seule une très faible proportion d'entre eux, 0,9%, souffrait d'un problème auditif. Selon le Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveau-nés, tous les bébés devraient être soumis à ce test. Or, il n'est pas encore offert dans toutes les installations où des accouchements ont lieu au Québec. C'était « L'allaitement gagne en popularité, mais n'atteint pas les cibles de Québec », un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 21 novembre 2024 dans « La Presse ».
Le syndrome de Montréal. Un texte d'Isabelle Haché, paru le 27 novembre 2024 dans La Presse. Après les syndromes de Stockholm, de Florence et d'autres villes du monde, il est temps que Montréal ait son propre syndrome, la conophobie. C'est du moins ce que propose un éminent psychiatre de la métropole. Mais non, pas la phobie des cons. La phobie des cônes oranges. Sans blague! En parcourant l'article du docteur Emmanuel Stipp dans un numéro spécial de la revue Santé mentale au Québec, je me suis demandé s'il s'agissait d'un poisson d'avril en novembre. Le ton de certains passages est résolument ironique. Sur le fond, pourtant, le psychiatre jure être tout ce qu'il y a de plus sérieux. La conophobie est un néologisme pour signifier la naissance d'un jeune syndrome en lien avec l'observation croissante d'un mal et d'une souffrance originale envahissant la métropole du Québec. L'angoisse par rapport à un objet clairement identifié qu'on appelle le cône. Lit-on dans l'article révisé par un comité de pairs. L'ancien directeur du département de psychiatrie de l'Université de Montréal dit observer de plus en plus de cas de Montréalais stressés, angoissés, à la vue des balises de signalisation routière omniprésentes dans les rues de la métropole. Lui-même admet avoir pété les plombs après avoir tourné 20 minutes autour de chez lui, au volant de sa voiture, incapable de se frayer un chemin dans une impénétrable forêt orange. J'ai vu des comportements de rage, de révolte, raconte Emmanuel Stipp. Sur les réseaux sociaux, des vidéos virales ont montré des gens descendre de leur voiture pour balancer des cônes. Il pourrait s'agir, selon le psychiatre, des premières anomalies comportementales observables dans la population, indiquant la souffrance et le sentiment d'impuissance d'un nombre croissant de citoyens. « Fuck you and fuck this city » a crié un automobiliste à une signaleuse en septembre 2024 avant de donner un furieux coup de pied dans un cône. Un an plus tôt, un autre Montréalais, exaspéré, a été filmé déambulant au milieu d'une rue et projetant un paquet de cônes au bout de ses bras. De plus en plus, les signaleurs routiers disent avoir peur, et pas seulement d'être happés par une voiture. Ils craignent autant, sinon plus, les automobilistes en furie. Tout le monde connaît le syndrome de Stockholm, qui décrit la sympathie d'une victime envers son agresseur. Ce phénomène fait référence à un célèbre vol de banque survenu dans la capitale suédoise en 1973, au cours duquel les otages avaient fini par développer un attachement envers leur ravisseur. Il y a aussi le syndrome de Lima, qui décrit plutôt l'empathie qu'un agresseur peut éprouver à l'endroit de sa victime. Le syndrome de Florence, pour sa part, fait référence au malaise provoqué par la contemplation des œuvres exposées au musée des Offices. Oui, ce malaise existe réellement. Les gardiens du musée florentin sont même formés pour intervenir auprès des touristes qui en sont victimes, foudroyés par tant de beauté. Le syndrome de Montréal décrit une autre sorte de malaise, un peu moins gracieux, mettons. N'empêche, les Montréalais entretiennent une relation amour-haine avec leur cône, comme s'ils avaient développé un syndrome de Stockholm envers les gros cylindres et qui ont pris leur ville en otage. À preuve, les porte-clés, tasses et autres souvenirs à l'effigie des cônes que l'on vend désormais aux touristes. Les cônes sont devenus des icônes de Montréal. Ils font partie de l'identité de la métropole. D'où la pertinence de parler de « syndrome de Montréal » pour décrire la phobie de ces balises routières, estime Emmanuel Stipp. Le psychiatre admet qu'à sa connaissance, il n'y a pas encore eu d'hospitalisation provoquée par la seule vision dantesque d'un tas de cônes entravant une rue, souvent pendant des jours, voire des semaines, sans raison valable, une absurdité qui accentuerait le sentiment d'impuissance des malades. Enfin, malades, la conophobie n'est pas une maladie mentale reconnue, bien sûr. Pas encore, en tout cas. Cela dit, depuis la publication de son article, le docteur Stipp affirme avoir reçu plusieurs courriels de collègues ayant observé des cas patents de détresse conique. La prochaine étape, nous dit le docteur Emmanuel Stipp, sera de faire des études de cas liés à ce syndrome et de les publier. Dans son article, Emmanuel Stipp propose quelques aides et remèdes pour les individus déjà atteints de ce mal insidieux. Ça pourrait, par exemple, prendre la forme d'une journée annuelle dite « révolte des cônes » au cours de laquelle le peuple lancerait en l'air les cônes de la ville, sans compromettre la sécurité routière, bien entendu. Sinon, le psychiatre suggère, avec un brin d'ironie, vous l'aurez compris, une musicothérapie basée sur le rythme de type tam-tam de cône, ou encore une thérapie d'acceptation et d'engagement qui pourrait aider le conophobique à cultiver une vie riche et pleine de sens en acceptant ce qui est au-delà de son contrôle. Personnellement, j'aime bien l'idée d'utiliser des cônes comme haltères sous la supervision de kinésiologues spécialisés en santé mentale, ce qui aurait l'avantage de prévenir de potentielles maladies cardiovasculaires. Ou celle de remplacer chaque cône par un arbre, un projet écologique qui réduirait la circulation, en plus d'améliorer la santé mentale. Espérons que Valérie Plante prenne des notes. Ou pas. C'était Le syndrome de Montréal, un texte d'Isabelle Haché, paru le 27 novembre 2024 dans La Presse.
Les jeunes font des surdoses plus fortes qu'avant à cause des opioïdes. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 31 octobre 2024 dans Le Devoir. Il y a toujours eu de la drogue à l'école, mais ces dernières années, la situation est devenue plus inquiétante. Les substances sont plus variées, plus fortes et, surtout, plus sournoises en raison de la contamination au fentanyl et à ses dérivés. En parallèle, l'accès aux stupéfiants par l'entremise des réseaux sociaux est plus facile que jamais. Bon an, mal an, entre 60 et 100 jeunes âgés de moins de 19 ans se retrouvent à l'urgence pour une intoxication que l'on croit liée aux opioïdes, selon l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. C'est sans compter les surdoses d'autres substances dans la catégorie des sédatifs et des stimulants pour lesquels il n'y a pas de données. À la clinique de médecine de l'adolescence du CHU Sainte-Justine, le docteur Nicolas Chadi, pédiatre et chercheur en toxicomanie, voit plusieurs de ces cas et il constate qu'ils ont tendance à être plus sévères qu'avant. Ce n'est pas que le nombre de cas a augmenté, mais les cas que l'on voit sont très impressionnants par la force des substances et la facilité d'accès, affirme-t-il. Il constate dans sa pratique une plus grande circulation des opiacés de synthèse comme le fentanyl et ses dérivés, de plus en plus forts, dont de petites quantités peuvent mener à des intoxications. Un ado peut en consommer pour la première fois, prendre un seul comprimé ou en fumer une seule fois et se retrouver dans une situation de surdose. C'est quelque chose qui pouvait arriver aussi dans le passé. Si on prenait beaucoup d'une drogue qui était moyennement forte, mais là, ça peut arriver plus facilement. Ces substances ont remplacé l'héroïne, qu'on ne trouve pratiquement plus dans la rue, car elles sont beaucoup moins coûteuses à produire, plus faciles à importer et, surtout, beaucoup plus fortes. La progression vers une surdose peut ainsi se faire plus rapidement aujourd'hui, sans qu'on ait nécessairement un long historique de consommation, indique le docteur Chadi, les comprimés étant perçus comme moins dangereux que les drogues injectables, par exemple. En effet, on imagine mal un jeune passer en une seule soirée d'une bouffée de cannabis à l'injection d'héroïne. Mais il peut facilement prendre un comprimé contenant une substance peut-être plus forte que la dite héroïne. Et là, rapidement, on se retrouve dans une situation qui peut être très risquée pour la vie. Les médicaments tout aussi dangereux. Les médicaments prescrits, de plus en plus populaires chez les jeunes, selon plusieurs intervenants en toxicomanie, donnent aussi un faux sentiment de sécurité. Plusieurs jeunes ont peur des substances fortes. C'est rare qu'ils vont se pitcher dans la cocaïne et l'ecstasy, mais les médicaments contre le TDAH, par exemple, ça fait moins peur parce que leur ami en prend, explique Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale de la maison Jean Lapointe. Si pour plusieurs c'est pour un usage récréatif, d'autres vont tenter ainsi de s'auto-médicamenter. Parfois les deux en même temps. Les jeunes vont souvent acheter le médicament d'un ami, qui peut par exemple avoir simulé des symptômes pour avoir une prescription, ou se servir dans la pharmacie des parents ou des grands-parents. Mais plusieurs s'approvisionnent aussi sur le marché noir, ne sachant pas nécessairement comment faire la différence entre une substance produite en pharmacie, donc contrôlée, et un produit contrefait qui peut être lourdement contaminé. En octobre 2024, la Santé publique de Québec a lancé un appel à la vigilance à la suite d'une surdose non mortelle chez un adolescent survenu en septembre 2024. Le jeune pensait avoir consommé un analgésique vendu sous le nom de Percocet. C'était en réalité du protonitazépine, un opioïde de synthèse 25 fois plus fort que le fentanyl, a indiqué la santé publique. La présence de comprimés contrefaits pouvant contenir de puissants opioïdes est de plus en plus fréquente, expliquait la docteure Anne-Frédérique Lambert-Slit, médecin conseil à la direction de santé publique du CIUS de la Capitale-Nationale, dans un article du Devoir. Elle ajoutait détenir des données montrant que ces comprimés contrefaits sont en circulation chez les jeunes consommateurs qui n'ont généralement pas une grande tolérance aux opioïdes et qui sont ainsi à risque d'être victimes de surdoses graves. Le cas des faux Xanax. Une situation semblable s'est produite dans une école secondaire de la Montérégie en 2021. Plusieurs jeunes ont acheté ce qu'ils croyaient être du Xanax, au coût de 2 $ le comprimé. Ils se sont tous retrouvés à l'hôpital, victimes d'une surdose. L'un d'eux a fait un arrêt cardio-respiratoire. Les autres symptômes observés étaient des difficultés respiratoires, de la difficulté à communiquer et à rester debout, des comportements agressifs et de l'amnésie, d'une durée qui a varié entre 6 et 10 heures. La santé publique avait alors envoyé une lettre à tous les parents de jeunes fréquentant le secondaire pour les sensibiliser au risque de surdose. Les analyses ont permis de découvrir qu'il s'agissait de comprimés de contrefaçon qui ne contenaient aucune trace de Xanax. Il s'agissait plutôt d'une combinaison d'autres molécules appartenant elles aussi à la classe des benzodiazépines, mais avec des concentrations beaucoup plus fortes. Les comprimés ressemblaient à s'y méprendre aux comprimés pharmaceutiques, explique Audrey Morin, qui s'occupe de la prévention des surdoses à la direction de la santé publique de la Montérégie. Certains jeunes lui ont même rapporté avoir vérifié sur Google Images que le logo sur le comprimé était bien le bon, mais les trafiquants sont doués pour falsifier les produits. Peu de temps après, une deuxième vague de surdoses au comprimé de Xanax contrefait a été signalée dans la région. Même produit, même bas prix et toujours des jeunes du secondaire comme cible. Cette fois, la santé publique a poussé l'intervention plus loin, allant à la rencontre des jeunes directement dans les écoles pour faire de la prévention en lien précis avec ces événements. Lors de ces interventions, plusieurs jeunes ont affirmé être déjà familiers avec le Xanax, car des influenceurs en faisaient la promotion sur les réseaux sociaux. Un phénomène qui s'étend à plusieurs substances, de l'alcool aux benzodiazépines en passant par les microdoses de champignons magiques et qui fait frémir l'ensemble des intervenants qui travaillent en prévention. En Montérégie, les jeunes ont décidé de combattre le feu par le feu et ont lancé leur propre campagne de sensibilisation destinée aux jeunes sur les réseaux sociaux. Leur affiche « Le trip d'une vie ». Est-ce vraiment du Xanax, qui montre un corps prêt à être mis en terre, est encore à poser dans les centres jeunesse et les postes de police de la Montérégie. Il arrive que je recroise certains jeunes qui ont travaillé sur la campagne et ils m'en parlent encore, affirme avec fierté Audrey Morin. C'était « Les jeunes font des surdoses plus fortes qu'avant à cause des opioïdes ». Un texte de Jessica Nadeau paru le 31 octobre 2024 dans Le Devoir.